lumière sur la grande lumière. Les chevelures sans foulard, les filles grandies trop tard, s'endormaient sur le sol, dans les caves, les entresols, revivant toujours l'histoire, prise par les gamins du square. Mon Dieu, montrez-vous quand même les jours de communion, les baptêmes. Bénissez les robes blanches, que les souillures un jour balayeront comme une avalanche. Que les souillures un jour balayeront comme une avalanche.
Bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste 89.4 sur la région parisienne, sur la FM et radio-libertaire.org dans le reste du monde. C'est la société dans tous ses états, troisième lundi du mois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Albert. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Il va être question dans cette émission d'intelligence artificielle. Je t'avais déjà convié dans notre émission. C'était, je crois, si ma mémoire est bonne, en 2019. Tu étais venu nous présenter cette affaire. Et à l'époque, je me souviens, alors tu me contrediras si jamais ma mémoire me trompe, mais dans que tu me disais à l'époque, il y avait aussi cette possibilité de s'emparer de cet outil pour nous, pour faire la révolution, etc. Et depuis, les choses ont changé. On va revenir là-dessus pour la suite. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, si tu peux en deux, trois mots nous présenter ton parcours et pourquoi tu es aujourd'hui à même de parler de cette vaste question, de cette question à la fois scientifique, mais aussi politique, économique, sociale, etc. En gros, d'où tu viens et d'où tu parles, comme disait l'autre.
Voilà, là, 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 là. Je vais faire ça. Bon, tout d'abord, merci de m'inviter à ton micro, que j'apprécie beaucoup, et surtout de me réinviter, et ça va être intéressant de comprendre un peu ce qui s'est passé entre-temps. Sur mon parcours, c'est le parcours d'un gars qui était pas trop mauvais en maths, qui a découvert l'informatique à la fac, qui a trouvé ça passionnant, et qui ensuite est tombé sur l'intelligence artificielle, qui a trouvé ça encore plus passionnant. Avec le truc qui m'excitait quand j'ai découvert ça, c'était de comprendre ce qui restait aux hommes une fois qu'on avait compris que les animaux avaient des émotions, du moins pour certains, avaient une culture transmise à travers les générations. Et donc ça contrastait un peu avec notre vision de l'homme unique avec ses grandes émotions, sa culture extraordinaire, ses outils. Et de l'autre côté, si on les grignotait, on va dire par le haut ou par la mécanique, par les mathématiques, en faisant des machines qui étaient, on va dire, intelligentes. Question de guillemets. Donc ça, c'est le début. Ça m'amène à faire une thèse au centre de recherche du groupe Bull, une thèse CIFRE, ça s'appelle, qui est financée par des bourses. Ouais. Une thèse assez remarquée, ce qui m'a valu d'entrer dans la deuxième start-up française. Alors à l'époque, on était les Indiens contre les cow-boys. Hein. Maintenant, ce monde a changé et c'était un peu le monde de la rébellion contre les grands groupes, contre l'État, la bureaucratie, etc. Ça m'a valu de refuser aussi plusieurs propositions pour aller en Californie.
Oui, t'as refusé ça.
Oui, parce que ma thèse a été remarquée et donc c'était l'époque d'un premier élan du domaine. Parce qu'il y avait des trucs qui commençaient à marcher avec des applications industrielles.
C'était quelle époque, excuse-moi ?
C'était les années 80.
Ouais.
L'époque de l'IA symbolique, ce qu'on appelait les systèmes experts, qui en fait automatisaient les décisions d'experts. Par exemple, le groupe Bull s'y intéressait, c'était la configuration de leurs énormes ordinateurs, qui est un sujet très très complexe pour répondre à, pour proposer un ordinateur Bull énorme avec tous ses composants.
Et donc à ce moment-là, tu arrives tout frais et moulu avec ta thèse et tu t'insères donc dans cette start-up, c'est ça ?
Oui, dans ce monde-là de l'intelligence artificielle qui commençait à sortir du monde universitaire pour découvrir des premières applications industrielles. Ma thèse a été industrialisée, c'est devenu un produit du groupe, et qui était pas mal utilisé d'ailleurs à l'époque. Et du coup, on m'a proposé de rentrer là, dans cette start-up. Alors c'est rigolo parce que mon numéro d'employé, c'était le 1.
Ah oui.
Ouais, ça, d'accord. C'est rigolo. Et donc j'en étais le directeur technique. Cette histoire a duré une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Avec des hauts, des bas, on a failli couler plusieurs fois et on a fini par faire un carton mondial en devenant les leaders de ce domaine de l'intelligence artificielle symbolique à base de règles où on explique le raisonnement, la machine le met en œuvre. Ça nous a valu d'être acheté par IBM. Donc là, cette boîte est une horreur. Ce qui s'en dit à l'intérieur, c'est qu'avant, ils raclaient les employés jusqu'à l'os et que maintenant, ils raclent la moelle qui est à l'intérieur.
Ah oui.
C'est dirigé par des Américains qui ne peuvent pas sentir les Français. Ils pensent qu'on est toujours en grève ou planqué dans les chiottes en train de faire l'amour, etc. etc. Donc, c'était une relation un peu compliquée et j'en suis parti dès que j'ai pu. Entre-temps, j'ai monté un petit centre de recherche parce que c'est ça que je savais faire. Mais j'en pouvais plus de cette boîte. Et je commençais à avoir un regard critique sur l'IA. En fait, ça a mis assez longtemps parce que le domaine est passionnant et puis le succès, ça t'incite pas à réfléchir sur ce que tu fais. Et donc, c'est en commençant à regarder un peu le truc de l'extérieur. Mon premier mouvement, ça a été de dire, bon Dieu, on est totalement colonisé par les Américains. Ce qui se passe, là, l'IA, c'est un truc très, très important. Il faut qu'on le maîtrise en France, éventuellement en Europe. Et donc, j'ai commencé à faire des conférences plutôt en direction des entreprises en leur disant il faut vous réveiller, il se passe quelque chose, renseignez-vous, faites des expériences, etc., etc. Bénévolement, hein, tout ça.
Oui.
Ça m'a conduit à créer une grosse association qui s'appelle le Hub Francia, dont le but, c'était de regrouper les grands industriels, les petites start-up, les scientifiques, enfin, tout ce qu'on appelle l'écosystème de l'intelligence artificielle en France, et de mettre ces gens-là ensemble en faisant des réunions mensuelles, en publiant des partageant de l'information. Donc, j'étais fondateur de ce truc-là.
Ça, c'était à quelle époque ?
Ça, c'était... on a déjà dépassé les années 2000, autour de 2007, 2008, 2010. Et puis...
ça a marché ? Il y a eu de...
Ça a très bien marché. Ouais. ça a trop bien marché pour moi, parce qu'entre-temps, je m'étais engagé à la Fédération anarchiste, et fréquenter ce monde-là, alors quand je dis ce monde-là, c'est les entreprises du CAC 40, je me suis retrouvé plusieurs fois dans le bureau de Bruno Le Maire, et donc c'est un monde qui sent... pas bon quand même.
Ouais.
Et au bout d'un moment, c'était totalement incompatible avec mes convictions et le bout d'engagement politique que je menais. Donc j'ai dit, je quitte ce truc-là. Entre autres, il y a le ministère de l'Intérieur qui voulait absolument rentrer. Une normalienne tout à fait charmante qui se plaignait du machisme du cabinet de... Comment il s'appelait, là, le maire de Lyon, Colomb. C'était cette époque-là. Du coup, je pouvais plus rester là-dedans, donc j'ai dégagé, j'ai démissionné, quitté la présidence. Et puis, j'ai continué à faire donner des conférences, toujours en direction, ce coup-ci, j'ai élargi du grand public, lanceur d'alerte, c'est pas vraiment le mot, mais disons que c'est de dire, il se passe quelque chose. L'impact de ces techniques-là va être énorme. Prenons conscience de ça.
Oui, tu étais un peu précurseur d'ailleurs.
Ben oui, parce qu'en fait, je suis tombé dans ce domaine où j'avais, je sais pas, 20 et quelques années, donc je le connaissais comme ma poche. Mm-hmm. Je voyais les évolutions et l'accélération de ces évolutions. Et donc oui, j'ai pas besoin de réfléchir pour parler d'intelligence artificielle ni de lire des livres, quoi. Et même maintenant, j'ai pas mal d'amis du domaine et je reste informé sur
ce qui se passe. Tu restes au courant
pour le critiquer maintenant.
Ouais. Alors, on va essayer de, avec toi, de comprendre un petit peu mieux ce que ça recouvre, ce thème d'intelligence artificielle. Ça commence quand? Quand est-ce qu'on peut... Alors, on va pas remonter à Pascal et puis son boulier.
On va faire ça de façon raisonnable. Il y a deux moments fondateurs. Il y a un article d'Alan Turing, ouais. Très grand mathématicien, qui entre autres est connu pour avoir décodé le code
Enigma.
De chiffrement des nazis, Enigma.
Il y a un très bon film qui en traite.
Et donc, en fait, c'est le début de l'informatique, ce moment-là.
Ouais.
Et l'informatique, c'est en premier lieu les militaires.
Ouais.
Hein? Et donc, Alan Turing rédige un papier vraiment fondateur dont le titre, alors je vous traduis, ça fait une vingtaine de pages et ça vaut vraiment le coup de le lire, le titre, il dit « Can machine think ?» Est-ce que des machines peuvent penser ? Il fait tout un long développement en échangeant des tas d'argumentations. C'est un gars tout à fait brillant et rigoureux, hein, un bon mathématicien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la conclusion où il dit « J'espère que des machines vont pouvoir penser et j'espère qu'elles vont être au moins aussi bonnes que nous, si ce n'est meilleures, dans l'ensemble des domaines des tâches cognitives réalisées par les humains. » Donc ça, c'est le papier qui dit on peut probablement envisager des machines qui pensent. Alors, on va mettre des guillemets ou pas sur le terme. Et c'est souhaitable.
C'est un utopiste, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une réflexion philosophique, politique?
Oui, il y a une réflexion. Il y a le fantasme du mathématicien. Le mathématicien, alors on fait un tout petit saut en arrière à Galilée.
Ouais.
Tout ça démarre avec Galilée, sa fameuse phrase qui dit l'univers est comme un livre, et c'est pas écrit ni en grec ni en hébreu, c'est le langage dans lequel il est écrit, c'est les mathématiques.
Ouais. Ouais.
Donc, cette hypothèse de Galilée, ça a fondé la science des Lumières, avec les maths d'abord qui décrivent la matière et la chimie. Ensuite, la matière vivante, c'est la biologie. Et ensuite, la matière pensante, et ça, c'est l'informatique et maintenant l'intelligence artificielle. Donc, le grand saut en arrière, il démarre avec cette hypothèse-là, auquel les grands scientifiques, et les moins grands d'ailleurs, se sont accrochés et ont travaillé. Et l'intelligence artificielle, c'est ce truc-là. Pour ça, il fallait des machines. Les machines arrivent après-guerre, poussées très largement par les militaires. Et là, c'est en 1956 qu'il y a le moment vraiment fondateur du domaine, où le nom est inventé. C'est là, une réunion qui s'est passée à Dartmouth, aux États-Unis. Pour se faire financer, les deux promoteurs du domaine ont écrit une lettre à la fondation Rockefeller, disant, on veut se réunir pendant 2 mois avec une vingtaine de personnes, toutes de très très haut niveau, électroniciens, informaticiens, biologistes, philosophes, nanana. Donc ils décrivent ce qu'ils veulent faire. Ils disent, on veut créer le domaine de l'intelligence artificielle. Donc c'est là où le nom apparaît. Et voilà les objectifs. Et c'est là où c'est tout à fait intéressant. Donc les objectifs, à nouveau, c'est de produire une machine. Et je pense qu'on y reviendra parce que il faut parler de machine. C'est très très important pour moi. Plus que d'algorithmes. On veut faire des machines intelligentes qui vont s'occuper des concepts. Donc, des choses qu'on sait plutôt pas trop mal faire, les humains, c'est produire des abstractions, des hiérarchies de concepts, qui vont maîtriser le langage, plein d'autres trucs. Et c'est là le plus important, probablement, qui seront capables de s'auto-améliorer. Donc là, le domaine est fondé. On dit que ça veut faire des machines qui reproduisent ce que nous, on considère comme un comportement intelligent. Si on veut évacuer le débat, est-ce que les machines sont intelligentes, qui est un mauvais débat, à mon avis, et qui seront capables de s'améliorer. Ce qui veut dire que cet objectif-là, c'est de faire des machines plus, on va utiliser le mot pour simplifier, intelligentes que les humains, et capables d'une intelligence aussi générale que nous, on pratique. Et ça inclut aussi l'intelligence de diverses sortes d'animaux. On pourra en reparler sur les drones, par exemple, et l'intelligence en essaim. Donc ça, c'est au tout début du domaine, en 56. Ils étaient totalement... soit cinglés, soit très ambitieux. Ils avaient envie de s'y coller. Ils avaient besoin d'argent pour avoir des locaux, les machines. Ça coûtait extrêmement cher à l'époque. Il faut des étudiants. Donc, ils sont allés voir les militaires. D'ailleurs, ils n'avaient pas besoin d'aller très loin.
Hein, excuse-moi, juste oui. De t'interrompre, c'était qui, ils, ce dont
alors,
ce dont
c'est Marvin Minsky, c'est un groupe d'universitaires américains, donc un des noms importants là-dedans, c'est Minsky, par exemple.
D'accord. Hein.
Minsky, Papert, enfin, une dizaine de personnes.
Ouais.
Ils sont allés voir les militaires, où les militaires sont allés voir, et ils se sont fait financer assez massivement en disant on y est presque.
Ah, ils sont allés au bluff.
Alors, je ne sais pas. J'attends le moment où les correspondances vont être, j'espère qu'il va arriver, vont être publiées.
D'accord.
Parce que ce qu'il disait est incroyable. Je suis tombé sur une citation justement de Minsky, d'Anne Segat de l'époque, en 56, qui disait... c'est Noël. Alan Noel et Herbert Simon, prix Nobel. Hein,
ouais.
Qui disait... Alan et moi, d'ici 6 mois, on aura inventé la machine qui pense.
Ah oui.
D'ici 6 mois, en 56. Mmh. Les ordinateurs, ça faisait pas grand-chose. Mmh. Enfin, donc ils ont... soit ils étaient naïfs et ils y ont cru, ou trop enthousiastes, soit ils ont voulu enfumer les militaires qui ont effectivement arrosé tout ça de millions de dollars. Et ils y sont allés. Et ça a créé le début du domaine et la suprématie américaine en intelligence artificielle. Elle date de ce moment-là et ça a continué. Moi, c'était un peu la mecque d'aller soit à Boston, soit à San Francisco pour aller faire de l'IA, quoi. J'étais trop anti-américain, limite primaire pour ne pas y aller suite aux manifs contre la guerre du Vietnam, etc. Mais c'était là où ça se passait. Et donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas suite à ces promesses. Les bas, en fait, qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle, c'est très simple, c'est quand les militaires américains ont arrêté de financer.
D'accord.
Donc le domaine, c'est assez vrai de l'ensemble de la science. La science, elle est en premier, très largement tirée par les besoins des militaires. Et l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, ce sont les applications civiles de ce qui est utile pour les militaires. Première application, c'est une application de traduction. Donc, si on a des IA qui traduisent dans tous les sens, il y a une raison. Et ça voulait traduire le russe vers l'américain. Idem en France. Premier labo, grand labo d'IA, c'était à Xerox. Xerox, c'est une boîte américaine. Ça traduisait le russe. Enfin, ça essayait de traduire, ça, il n'y a pas grand-chose. Ça traduisait le russe vers le français. Donc, omniprésence des militaires dans le financement. Et il y a un truc assez symbolique, mais pas seulement, c'est que le démarrage, c'est la fondation Rockefeller. Alors, en France, on ne voit pas le rôle de ces grandes fondations américaines, mais en fait, elles ont un rôle politique énorme et au niveau mondial. Elles ont ils peuvent dépenser des sommes colossales. Ils couchent avec les grands dirigeants de la planète. Un coup, je suis dans la fondation, un coup, je suis dans la politique, un coup, je suis dans l'industrie. Et ils financent ce qu'ils veulent. Enfin, quand ils ont l'argent, ils financent. Bill Gates, c'est plus connu avec l'OMS. Bill Gates contrôle une large partie maintenant de ce qui est fait à l'OMS parce qu'il en finance une large partie. Donc s'il dit moi j'arrête, grosso modo, on va soit lui obéir, soit se rapprocher de ses vues. Donc c'est une petite parenthèse, mais c'est assez important. Et ça, j'ai mis longtemps à le réaliser, parce que moi, je voulais travailler ni pour les banques, ni pour les militaires, ni pour Israël. Une sorte de tabou comme ça que je m'étais inventé. Et en France, les militaires, ils ne sont pas très fortiches, quoi. Ils sont un peu neuneux. Ils sont à la traîne. Donc, ils finançaient un truc par-ci, un truc par-là, mais ils étaient assez peu présents Contrairement aux États-Unis, où ils sont en première ligne sur tout ce qui est start-up et encore maintenant. Si on veut comprendre ce qui se passe en IA dans les 10-20 prochaines années, il faut aller regarder les projets financés par la DARPA. La DARPA, c'est la... C'est l'Agence de financement des recherches avancées de l'armée.
C'est grâce à eux qu'on a Internet.
C'est à cause d'eux qu'on a l'Internet qu'on a.
Ouais.
Ouais. Alors, eux, ils voulaient effectivement un système de communication qui soit robuste et qui puisse résister à tous les assauts pour maintenir la chaîne de commandement.
Oui, et qui soit décentralisé.
Ouais. Voilà. Et on a l'Internet qu'on a, et donc qui est devenu un dispositif d'espionnage colossal de toute la population, enfin un truc complètement cinglé. Parce que ce sont les militaires qui ont piloté le truc. C'est-à-dire qu'ils ont interdit d'inclure la cryptographie à la base de l'Internet. Ce qui était rien à l'époque, il y avait des méthodes de chiffrement qui étaient connues. Eux, ils ont voulu se garder le chiffrement, c'est-à-dire pouvoir comprendre tout ce qui se passe et protéger leurs messages à eux.
Mmh. C'est important là ce que tu dis sur le rôle de l'armée. Il faut rappeler aussi le contexte, hein, c'est la guerre froide. Avec des tensions internationales, les menaces nucléaires de part et d'autre, l'affaire de Cuba, etc. Donc il y a un contexte politique, géopolitique qui est extrêmement prégnant à ce moment-là.
Oui, c'est présent, mais moi je dirais peut-être plus encore, il y a le sentiment de toute puissance qu'ils ont obtenu à travers le projet Manhattan.
Oui.
Hiroshima, ouais. Alors c'est un truc qui est, c'est comme si ça n'avait pas existé, on en parle extrêmement peu. Pourtant, c'est un moment de basculement majeur des sociétés modernes, quoi. C'est le moment où la science a permis, grosso modo, de détruire l'humanité et où les militaires américains ont compris qu'en quelques années, s'ils réunissaient les scientifiques, les industriels, les banquiers et les militaires, ils pouvaient faire ce qu'ils appellent maintenant d'ailleurs des moonshots projects, c'est-à-dire des projets pour aller sur la Lune, en quelques années. Mm-hmm. Et donc, quand les gens de l'IA, les scientifiques leur ont dit, mais nous, vous avez maintenant la puissance brute de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie atomique, on peut vous donner la puissance intellectuelle, ils ont pété un câble, ils ont arrosé de l'argent. Donc, c'est extrêmement important de garder en tête l'omniprésence des militaires. Et le fait qu'il y a une théorisation maintenant des les dual projects, dual technologies. Mm-hmm. Technologie dual, c'est-à-dire qu'une ça coûte de plus en plus cher de faire de la technique. Les militaires, ils ont des budgets, mais ça reste limité. Et plus on en a, plus on veut dépenser. Et donc, il faut amortir dans le civil les technologies militaires. Et donc, trouver des utilisations civiles des technologies militaires. Donc, les drones, par exemple, qui vont dans les champs mettre des pesticides ou qui vont livrer les gens Dieu sait où, c'est pas qu'on a rêvé d'avoir ces machins-là, c'est que les militaires, eux, veulent des drones. Donc, il faut des drones civils. Et c'est systématiquement ce qui se passe. L'espionnage massif fait par l'industrie de l'IA, là, en particulier les GAFAM, qui est un truc complètement cinglé. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on développait pour la NSA, hein, l'agence de l'espionnage américaine, pour la CIA et pour les trucs militaires plus cachés, les technologies d'intelligence artificielle qui font cet espionnage, qui vont extraire l'aiguille dans la botte de foin, et retrouver le terroriste, là on peut mettre des guillemets, le gars qui ne plaît pas à la Maison Blanche pour l'assassiner avec le drone.
L'origine donc de cette affaire, tu viens de nous l'expliquer, donc c'est les militaires, c'est l'armée, et toi tu arrives dans ce domaine, dans ce milieu, dans les années 80, c'est une période un peu charnière où il va y avoir aussi un développement important d'une partie de l'IA. On reviendra un peu plus loin dans l'émission sur les différentes étapes
sur
les phases de l'IA, mais à ce moment-là, donc dans les années 80, c'est les tensions sont à leur comble. Hein, on se rappelle, c'est les euromissiles, les protestations protection contre l'implantation des missiles américains en Allemagne vis-à-vis des missiles russes de l'autre côté, etc. Donc il y a tout un contexte géopolitique. Est-ce que tu le ressens à ce moment-là ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est très loin en arrière-plan?
C'est en dehors parce que, disons que ça ne marchait pas très bien l'IA, ça ne faisait pas grand-chose.
Ouais. On était déjà à 30 ans de la réunion Dartmouth, hein, c'est ça à peu près.
Les chercheurs se concentraient sur ce qu'on appelait les toy problems, des problèmes joués. Le cas des jeux de damier, là, c'est un bon exemple, hein, les dames, les échecs, il y en a plein d'autres, pour tester leurs idées, faire avancer la science, etc. Et pas grand-chose, en vérité, n'était vraiment utilisable. Il y a une technique qui a émergé, qu'on a appelé les systèmes experts, qui n'a pas eu, à ce que je sache, particulièrement d'intérêt pour les militaires, parce qu'ils n'avaient pas vraiment ce problème-là de vouloir automatiser leurs experts. Ce n'était pas un sujet, donc ça s'est déployé plutôt dans l'industrie. Et donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Il y a deux grands champs, il y a trois en vérité. L'intelligence artificielle symbolique, où tu vas voir le gars qui sait faire un métier, une activité plutôt, et tu dis comment tu fais. Donc par exemple, le gars il dit, je sais pas si c'est un expert en configuration d'ordinateur, il dit si le client doit servir sur toute la France, il faut lui coller un gros réseau, un gros stock de câblage pour se connecter sur les réseaux internet, ou mettre tant de mémoire parce qu'on sait que chaque utilisateur ça va consommer un petit peu de mémoire. Donc ce sont des règles de type si, alors, comme les règles de la logique. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé des méthodes pour, en fonction des données de départ, trouver les règles qui s'appliquent. Quand il y en a plusieurs, sélectionner la règle la plus intéressante. Et puis l'appliquer, et du coup ça va rechanger le domaine du discours sur lequel ça s'applique, donc retrouver les nouvelles, etc., jusqu'à produire un résultat. Donc ça, l'idée, c'est une méthode de raisonnement qui s'inspire de la façon dont nous, on résout les problèmes en faisant du raisonnement, on va dire, assez conscient. Et ça marchait pas mal, ça marchait même bien, avec la difficulté que c'était compliqué quand il y avait on appelait ça des bases de connaissances trop grosses, donc 1000, peut pas dire certaines plus de 10 000 règles, c'est compliqué de rajouter celles qui manquent.
Oui.
Et de faire évoluer celles qui étaient déjà là, d'une part, et de l'autre, ceux qui savaient faire ces systèmes-là, c'était encore des gens proche de la science. Moi, ma carrière, j'ai toujours eu un pied dans l'industrie et l'autre dans la science. Ce qui me plaisait, c'était de faire de la science. Donc, j'ai gagné de l'argent dans l'industrie pour faire plaisir à faire de la science. Et donc, ça les intéressait pas de faire la maintenance de ces systèmes-là, quoi. Le faire, c'était super intéressant. Le faire vivre après, no way, comme on dit là-bas, pas moi, quoi. Donc, ça a sonné un peu le déclin de cette approche-là, mais et plutôt sa mutation, peut-être j'enchaîne sur les années 2000-2010, on a finalement découvert que c'était très très utile ce coup-ci pour automatiser ce qu'on appelle maintenant des décisions de routine. Donc en fait, on a plein de décisions qui sont cons, par contre il y a des règles, il faut les appliquer. Il n'y a pas des gros enchaînements de raisonnement, etc. Et c'est juste. Donc ça, c'est tout ce qu'on, par exemple, la comptabilité, tout ce qui est bureaucratie, les formulaires, les normes. Il faut vérifier qu'on est à la norme. Donc le monde contemporain produit des normes par milliers. Il n'y a pas que l'Europe qui fait ça. Les entreprises en font. C'est un système qui est trop gros produit des normes parce qu'on connaît plus les personnes, on peut pas leur faire confiance. Donc on leur met des normes sur le dos et on crée des dispositifs qui vérifient qu'ils les suivre. L'IA symbolique, ce qu'elle sait bien faire, très bien faire aujourd'hui, c'est automatiser ses décisions de routine. Ça a un nom qui n'est pas du tout connu, parce qu'en fait, ça excite personne de dire j'automatise les décisions de routine. C'est le Robot Process Automation, c'est RPA. Hein. Ça, c'est depuis les années 2010, ça se répand partout et c'est ce qui a valu à la boîte où j'étais d'être acheté par IBM.
Take 5 d'Ève Brubeck, interprété à la guitare par Lucas Brard. Toujours Radio Libertaire, la voix son du Nimètre et sans publicité de la Fédération Anarchiste, 89.4 sur la bande FM en région parisienne, radio-libertaire.org dans le reste du monde. La société dans tous ses états, aujourd'hui nous sommes avec Patrick Albert qui a longtemps travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle dans une première partie qu'on vient d'écouter. Donc il nous a raconté la naissance, l'émergence de cette intelligence artificielle, ses liens relations avec le militaire, avec l'armée, avec la défense, et puis aussi les tout débuts, ses débuts à lui dans un domaine particulier de l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle symbolique. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, hein, Patrick. Donc tout à l'heure, tu nous as évoqué l'intelligence artificielle symbolique, celle par laquelle tu as débuté dans ta carrière. J'aimerais dans cette deuxième partie qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux ces différents types d'intelligence artificielle et qu'on essaye de comprendre quelles en sont les applications, comment elles s'articulent et comment entre elles et qu'est-ce que ça donne en termes de compréhension de tous ces systèmes. Alors l'intelligence artificielle symbolique, tu nous as touché un mot, et tu nous as parlé des routines et des normes.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui est stabilisé maintenant, c'est donc le RPA. Là, c'est, le nom est marrant, c'est Robot Process Automation. Donc, c'est l'automatisation des processus par des robots. Alors, c'est peut-être l'occasion d'une digression. J'intègre dans les mêmes conceptualisations l'IA et les robots en général. Je pense que séparer les deux, ça ne permet pas de bien comprendre ce qui se passe. Une IA qui est sur Internet ou dans le smartphone, c'est un robot. C'est un machin, il y a de la matière, il n'y a pas de matière, il ne se passe rien du tout. Il y a de la matière, il y a une machine qui dépense de l'énergie pour produire quelque chose. C'est extrêmement petit, hein, dans le téléphone, donc on ne le voit pas. Ne le voyons pas, on pense que c'est immatériel, c'est du boniment. C'est un petit robot qui n'utilise pas son corps pour faire grand-chose, pas pour remuer de la matière. Nous, on a l'habitude de penser robot. Alors, en termes techniques, c'est système cyberphysique pour les robots qui remuent de la matière.
D'accord.
C'est cyber, donc le monde de l'Internet, on va dire, et physique, ce qu'on appelle aussi IRL, hein, In Real Life. C'est drôle parce que là, j'ai écrit un bouquin et je ne sais pas comment appeler. Le mot que j'utilise, c'est le vrai monde avec un tiret.
Vrai monde avec tiret.
Le vrai monde. Ouais. C'est-à-dire le monde là où on est tous les deux. Mm-hmm. Nos auditeurs, ils ne sont pas dans le vrai monde, ils sont en cyber. C'est-à-dire qu'ils sont ailleurs, à un autre éventuellement moment temporel, mais ce n'est pas ce monde-là. Et je pense qu'on a besoin maintenant de distinguer les deux. On le fait, hein, on a un besoin de terminologie. Alors il faut savoir, les informaticiens sont des furieux de la terminologie. Du moins ceux qui sont sérieux, parce qu'un informaticien, ça passe son temps à inventer des mots, des noms, pour écrire ses programmes. Et un programme qui est mal nommé, en général, il est merdique. Donc, on a un peu cette obsession de bien nommer les choses, quoi.
Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, ouais, disait Camus. Hein.
Exactement, ouais. Camus avait dit ça, mais en fait, ça s'applique parfaitement à l'informatique. Moi, j'ai lu des milliers de pages de programmes. Il y a des programmes, je lis le truc, je fais « Ah non, ça va être merdique ». Et de fait, ça l'est. On en est maintenant à avoir deux noms, à la nécessité de deux noms, pour le monde de la matière, là où notre corps est, et cyber. Moi, j'utilise cyber, ou cyber en français, pour, on va dire, le monde de l'Internet.
Hein, donc, RPA.
Et donc, RPA, c'est des robots qui automatisent les processus métiers. Ça vient de là. Donc, l'industrialisation de la production, ça a transformé les artisans, pour les plus chanceux, en ingénieurs, et pour les autres, en prolos. Et ce travail, il est décomposé, il y a des tâches, des sous-tâches.
C'est Taylor.
C'est le travail à la chaîne. Hein.
Ouais, c'est Taylor.
Et donc
oui.
Maintenant, il y a toute une industrie d'automatisation de ce qu'on appelle les processus métiers. C'est le travail de l'artisan qui a été décomposé en un processus. Et donc, c'est cette automatisation-là qui maintenant est faite par des IA. Depuis, le truc a vraiment explosé en 2010. Et dans la dynamique là, du monde des startups, il y a un moment où soit la boîte devient un géant, genre Facebook là, ou Meta, soit se vend à un géant ou à un petit géant. Donc c'est, on appelle ça la chaîne trophique. Hein. Il y a en bas il y a le plancton et puis en haut il y a la baleine les grands prédateurs. Donc chacun se nourrit du gars d'en dessous. Nous notre boîte on en a acheté 3, dont une boîte US. Alors on était franchouillard, on était super fiers d'aller acheter une boîte aux États-Unis qui avait été fondée par un scientifique, un furieux des maths. Quoi. Ça, c'est l'IA symbolique. Maintenant, c'est utilisé, ça n'excite personne, donc on en parle assez peu, mais c'est...
Tu peux nous donner deux, trois exemples, comme ça, concrets de...
Bah, par exemple, moi, mon système, il s'appelait Cool, avec un K.
D'accord.
Pour Knowledge and Object-Oriented Language. C'était un langage d'intelligence artificielle. C'est utilisé, par exemple, à la CNAV. Qu'est-ce qu'il y a cela d'allocation vieillesse ? En fait, ce truc-là, ça prend des tas de décisions. Pour les résumer, il y a les décisions liées à l'éligibilité à un programme. Est-ce que tu es éligible, pas éligible ? Donc, est-ce que tu as 3 enfants ? Si tu as 3 enfants, quel âge tu as ? Quel a été ton parcours dans le monde du travail ? Et une fois que tu as l'éligibilité, il y a quelle est ta pension ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Donc, il y a des règles qui définissent ça, qui ont été définies par des humains. Elles sont tout à fait explicites. Il faut appliquer ces règles-là.
Dans une conférence que tu as faite il y a peu de temps, à laquelle j'ai assisté, tu parlais du crédit immobilier.
Oui, il y a le crédit immobilier. Donc, c'est la même chose. Pour se faire allouer un crédit, il y a un corpus de règles qui est défini par les matheux des assurances ou des banques maintenant, et les gens du business, du marketing, qui disent le crédit, il ne faut pas rembourser plus du tiers de ce qu'on dépense. Ils ont des critères un peu plus subjectifs sur quelle est ton histoire de remboursement, quel est ton métier, quel est ceci, quel est cela. Donc là, on rentre dans le monde du big data. Et une fois qu'ils ont toutes ces informations, ils ont des règles, ils appliquent et ça donne crédit, pas crédit. On retrouve souvent les deux choses, donc éligible, pas éligible. Et ensuite, quel va être ton taux ? Quelle va être l'assurance qu'on va te coller ? Est-ce qu'il y a un niveau de risque tel qu'on va te faire payer des fortunes, etc. Et ça a été le moteur de la crise des subprimes.
Oui. Alors, justement, ce que tu nous disais, c'est que traditionnellement, pour obtenir un crédit immobilier, il fallait, quand c'était encore des humains qui s'en occupaient, une vingtaine de jours.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est grâce
c'est,
à...
C'est 20 minutes.
20 minutes.
Et maintenant, c'est 2, quoi. C'est plus 20. Et ça, c'était à l'époque. Et en fait, le vif du sujet, enfin, un des aspects vraiment importants, c'est que l'IA, c'est la deuxième phase de l'industrialisation. Première phase de l'industrialisation, c'est la machine à vapeur. Ça nous mène au monde des années 50, 60. Deuxième phase, c'est l'informatique. L'IA, c'est la fine pointe, c'est l'aboutissement de l'informatique. Et ça vise à industrialiser le reste. L'ensemble des activités qu'on ne peut pas industrialiser en remuant de la matière. Et donc là, ça a été l'industrialisation de l'allocation de crédit. L'industrialisation, ça veut dire le truc était éventuellement gratuit. Bah, maintenant, il faut le vendre parce qu'il faut payer les machines et, si possible, faire du profit avec tout ça. Mmh. Et deux, il faut le produire en masse. Donc, l'IA a permis la massification de l'allocation d'assurance, dont... Alors ça, c'est intéressant, le positionnement de l'IA symbolique et de l'IA probabiliste. L'allocation d'assurance, dont les gens qui avaient automatisé le système savaient pertinemment qu'au premier rhume, les gens qui ont donné le crédit pour acheter l'immobilier, des maisons, ne pourraient pas rembourser. Et donc, de fait, ça a donné cette crise, qui est une crise de l'IA, hein, générée par l'IA.
Là, tu parles de la crise des subprimes de 2008.
La crise des subprimes, hein, une crise mondiale. Enfin, l'Asie a été... Il y avait une barrière encore à échapper à ça. Les gens qui faisaient ça pondaient des règles. Et quelqu'un du métier regardait les règles. C'était, j'avais lu l'interview d'un directeur financier des deux grosses boîtes qui ont fait ça. Il y avait Fannie Mae et Freddie Mac, deux grosses boîtes d'assurance. Le mec a dit, après coup, je suis allé interpeller le PDG. Quand j'ai vu les règles, je lui ai dit, mais avec ces règles-là, les gens ne pourront pas rembourser. C'est écrit. Donc, l'IA symbolique... On peut comprendre ce que ça fait, et en particulier, il y a eu beaucoup de thèses, assez peu, parce que ça n'intéressait pas vraiment les industriels, pour qu'on puisse demander à ce type d'IA pourquoi. C'est-à-dire pourquoi il y a ce résultat-là. Et donc, elle va retrouver les règles qui ont été utilisées à partir de ce corpus, soit lister les règles, mais ça, c'est pas terrible, soit produire, là, c'est de nouveau une application d'IA, hein, d'expliquer, produire une explication qui idéalement prend en compte le niveau cognitif de la personne à qui il faut expliquer, parce que le but c'est qu'elle comprenne, et on ne comprend pas tous les mêmes choses, et produisent une explication cohérente de ça. Quand il y a eu le moment IA en France, les politiques se sont réveillés à peu près à cette époque, je me suis retrouvé impliqué là-dedans, et un des trucs que je mettais toujours en avant, qui a été totalement passé à la trappe, c'était de dire quand on automatise une décision, ça doit être légalement imposé que la machine puisse expliquer le raisonnement. En particulier, un certain nombre de décisions critiques sur l'existence des personnes, genre l'allocation des prêts, le montant de l'intérêt qu'on va te coller, où on a l'exemple en cours là l'allocation, pour dire comme ça, des places dans les universités et les écoles dans Parcoursup.
Ouais. L'algorithme est secret. Voilà.
Ce truc-là, c'est un monstre antidémocratique. L'algorithme devrait être ouvert, les sources publiées. On devrait avoir des statistiques, parce qu'une fois qu'on a informatisé, c'est très simple d'avoir des statistiques, de faire du big data dans tous les coins, etc. Et ça doit expliquer le pourquoi du comment. Mm-hmm. Là, ça ne le fait pas. Et donc voilà. Donc Parcoursup,
ça ne le fait pas parce qu'on ne veut pas que ça le fasse.
On ne veut pas que ça le fasse. Oui. Parcoursup, c'est l'industrialisation des décisions d'orientation. Maintenant, c'est une machine qui le fait. Oui. Alors, pourquoi j'oppose algorithme et machine ? Parce qu'en fait, les algorithmes, ça n'a rien de neuf. Le mot al, c'est un mot arabe. Hein,
Khawarizmi.
Ouais, donc peut-être tu peux m'aider pour.
Oui, c'était le nom d'un mathématicien arabe, Khawarizmi, qui a donné algorithme. Hein.
Exactement. Ouais. Donc c'est une méthode pour faire du calcul. Si j'interpelle nos auditeurs, je vous demande de calculer 1 700 028 divisé par 17. La plupart d'entre vous, peut-être bien la totalité, vous allez savoir faire ça. Par contre, vous allez poser le sujet sur un bout de papier, sauf pour les génies du calcul, faire les deux petits traits, là, poser 17, combien de fois 17 dans machin, qu'est-ce qui reste, je redescends un chiffre, combien de fois 17, combien de fois 17. Ça, c'est un algorithme. Donc, vous déroulez un algorithme. Donc, les algorithmes, c'est pas du tout propre aux machines. Ce qui se passe maintenant, c'est que ce sont des machines qui déroulent des algorithmes. Donc, on n'est pas dirigé par des algorithmes, on est dirigé par des machines. Et pour moi, ça fait une différence. Parce qu'en fait, je pense que le sujet général qu'on a à traiter, c'est celui des machines, qui démarre au 19e siècle. Et là, on est dans ce deuxième moment des machines et donc de l'industrialisation. Et le problème de la société, c'est ça, c'est l'industrialisation de tout et la marchandisation de tout, avec les machines, et donc avec cette deuxième génération de machines. Mais là, je me suis un peu...
Non, mais c'est très... On va revenir plus loin sur cet élément, parce que c'est...
Pour moi, c'est ça qu'il faut attaquer.
Ouais, ouais. Mais on va revenir, si tu veux bien, un peu plus tard sur cette notion. Ouais. Donc, on a parlé d'IA symbolique, tu as aussi évoqué l'IA probabiliste.
Donc voilà, donc l'IA probabiliste, c'est le grand essor de ce qu'on voit en ce moment, qui a vraiment démarré. Il y a une date très, très connue dans le milieu, là, c'est 2012. Alors, comment ça marche, l'IA, au niveau scientifique? Ça se passe aux États-Unis. Hein, donc, en France, on a toute cette école mathématique, là, c'est extrêmement élitiste. Mmh. Donc, on produit des gens super brillants à l'université, qui font des très bonnes thèses, dans les écoles d'ingénieurs. Il y a Polytechnique, il y a la crème de la crème, c'est Normal Sup. Et donc, on a tous ces gens qui savent faire de l'IA. Avant, ils allaient à Londres faire fortune en 7-8 ans dans la finance, sans se fatiguer le cerveau. Hein. C'est des maths assez cons, mais quand même un peu de maths. Maintenant, tout cela, quasiment, ils vont faire de l'IA ou de la biologie. Mais l'IA, maintenant, se couche beaucoup avec la biologie. Ils font de l'IA probabiliste. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'apprentissage. Et en fait, le Saint Graal de l'IA, il y en a deux. Il y a apprendre, parce qu'en fait, on ne sait pas programmer les machines. C'est très compliqué pour des humains. Il y a un indice de ça, là. Tu m'excuses, je fais des parenthèses tout le temps, mais il y a un indice de ça, c'est le langage humain. Il a deux caractéristiques en particulier. C'est imprécis et c'est ambigu. Et donc, quand on parle ou quand on écrit « c'est pour quelqu'un », cette personne va faire un effort de compréhension et d'interprétation. Cette personne comprend grosso modo là où on veut aller, ce qu'on veut dire, et va compléter ce qu'on a formulé pour se produire sa propre représentation. Et puis si c'est une discussion, on va échanger ça.
Juste une aparté, un très très bon livre sur ce sujet, c'est « Dialogue de sourds » de Marc Angenot.
Voilà. Donc oui, il y a des expressions qui disent ça, hein. Il y a langue de bois, dialogue de sourds, dans les institutions internationales, il y a la langue de coton. une machine pas intelligente, donc c'est les machines jusqu'à maintenant, on va dire, là je pense qu'il y a un moment de bascule, elle ne fait pas cet effort de compréhension, elle ne peut pas le faire, elle est con, elle fait juste ce qu'on lui dit, c'est comme un militaire. Un militaire, c'est con. Et donc, il faut lui dire exactement la première étape, la deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans tel autre. S'il y a une erreur, parce que pour tel un, qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper l'erreur, etc. Donc, il faut raconter toute sa vie pour faire des trucs, finalement, extrêmement simples à la fin. Donc, notre cerveau, il n'est pas fait pour, il n'est pas entraîné pour faire ça. Donc, les bons informaticiens, en général, sont des gens plus ou moins matheux. Donc, on a appris cette rigueur des maths, quoi, de la démonstration, où il ne faut pas oublier aucun détail. Et donc, ça ne fait pas grand monde. Et il faut les payer cher, parce qu'à partir du moment, ils comprennent la valeur qu'ils apportent dans les boîtes. Donc, ils disent, moi aussi, il faut me payer. Quoi. Donc, l'idéal pour l'IA, c'est que la machine apprenne à partir d'exemples. Nous, on fait ça. Très bien. Alors, on fait... Il y a une bonne image, une image que j'aime bien pour comparer l'IA symbolique et l'IA probabiliste, c'est-à-dire, en fait, d'apprentissage. C'est... on revient au langage. Un enfant, il apprend à peu près tout seul à parler. Et c'est probabiliste. C'est-à-dire, il nous entend... on pointe le doigt pour dire nanana.
C'est un chat.
Voilà, donc il suit le doigt. Au bout d'un moment, il comprend que ça se dit chat. Alors il le dit pas très bien. J'étais ce week-end avec une de mes petites filles et elle dit mécamant pour les médicaments. Donc réflexe des grands-parents. Médicament, mécamant. Médicament. Et à la fin, médicament. Et donc, c'est un mélange de ce qu'on appelle, ce sont les termes techniques de l'IA, hein, d'apprentissage supervisé, quand on reprend l'enfant et on lui dit médicament, il y a trois syllabes, et d'apprentissage non supervisé, c'est entendre, observer le monde et se produire une représentation du monde. Et si une machine sait faire ça, il n'y a plus besoin de la programmer. Ou d'ajouter un peu d'apprentissage supervisé pour rectifier là où d'elle-même elle ne sait pas faire. Donc c'est ça le cœur du sujet de l'apprentissage. Et c'est forcément probabiliste parce qu'on apprend toujours à peu près le truc par l'expérience. Donc là, il y a... Oui ?
C'est ce qu'on appelle le deep learning ?
Alors le deep learning, c'est une des deux grandes méthodes maintenant qui existent. Le deep learning qui s'inspire à la base des réseaux de neurones des humains et d'ailleurs des animaux en général. Il y a eu une modélisation mathématique qui a été faite dans les années 50 Donc, dès le début de l'IA, il y avait ce truc-là, c'était le perceptron. Alors, il y avait la photo, c'est une machine énorme, quoi, qui maintenant tiendrait sur probablement quelques nanomètres. Hein, et donc, ça a été la course à l'apprentissage sur ce modèle du cerveau, on va dire, humain. En fait, les scientifiques, ils sont un peu, ils se la pètent un peu, pas tous, mais un certain nombre, ils disent, nous, on est plus malins que tout le monde. Donc, si on veut faire des machines malines, il faut qu'elles soient comme nous. Et donc, on va s'inspirer de comment nous, on pense qu'on raisonne pour faire les machines. Donc, c'est comme ça qu'ils ont utilisé les travaux des premiers biologistes. C'était, si je me souviens bien, de modélisation de la vision de la grenouille. Hein? D'où les systèmes de vision, d'ailleurs. C'est pas tout à fait par hasard. Alors, ça a mis quasiment 2012, ça a mis une soixantaine d'années à réellement percer. Et dans le milieu de l'IA, les gens qui travaillaient là-dessus, on les appelle les apprentistes. Et tout le monde se foutait d'eux, parce que ça marchait pas, leur truc, où ça marchait, ils arrivaient à reconnaître un caractère au bout d'une nuit de calcul, enfin, il fallait vraiment s'accrocher au truc. À force de s'accrocher, il y a eu ce moment-là où l'apprentissage a commencé à marcher, et c'est là où il y a eu le nouveau boom, qui est maintenant une explosion de l'IA, c'est en 2012, et il y a eu deux phénomènes. Les machines et l'Internet, l'ensemble des données accessibles sur l'Internet. Alors, l'apprentissage, je pense qu'on peut dire que ça apprend très très mal, parce que quand tu parlais du petit bébé avec le chat, au bout, il te comprend assez vite ce que veut dire le mot chat. Si le chat se retourne et de face, de côté, si c'est un gros chat, un petit chat, hein, il va toujours reconnaître des chats.
Il va reconnaître l'ombre d'un chat et puis ensuite tu peux lui montrer une infime partie du chat et puis en déduire
deviner le reste, ouais. Ouais. Je fais une parenthèse, il y a une expérience en cours là qui vient d'être publiée. C'est un gars qui a mis une caméra GoPro avec un casque sur la tête de son enfant pendant 2 ans.
2 ans.
Ouais. Donc là, c'est pas les rats de laboratoire, c'est les enfants des chercheurs. Parce que pour savoir ce que nous on voit, en vérité, on sait pas trop ce qu'on voit. La quantité d'images, la quantité de chats, dans quelle position, etc. Parce que la réalité, c'est qu'il faut des centaines de milliers, voire des millions, voire des milliards d'exemples pour que la machine apprenne. Et le deep learning, c'est la rencontre de ces vieux algorithmes. Alors bon, les informaticiens ont bossé, entre-temps, ils ont amélioré les trucs, ils ont eu des idées, mais fondamentalement, c'est toujours ces idées principes, là, initiales. Modélisation du neurone assez simple. Ces données disponibles pour fournir de l'exemple. Donc ça, c'est tous les trucs stupides de chats là, sur l'Internet. Ça a été un des premiers cas d'école.
D'ailleurs, c'est même le CAPTCHA, là. C'est ce qu'on nous demande de remplir quand tu vas...
Oui, j'avais pas fait le lien phonétique. Ouais, donc quand vous faites un CAPTCHA, là, vous travaillez pour Google. Là. À chaque fois, ça me rend furieux.
Reconnaître les escaliers, les feux rouges, etc.
Exactement. Ouais. Et donc, l'autre moment extrêmement important, ce sont les machines. Ce qui s'est passé, et pour moi, c'est ça qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est passé depuis le début de l'IA, il y a eu des machines dédiées à l'IA. Il y a eu les machines qu'on appelait Lisp. Lisp, c'était le grand langage de programmation qui était dédié à l'IA, qui était un langage symbolique. En fait, ça fait des calculs, mais c'est très mauvais pour calculer. Par contre, rouge, bleu, vert, blanc, ça se manipule tout à fait simplement, ça se compare, ça, c'est fait pour traiter des symboles. Donc, il y a eu des machines Lisp. Il y a eu un moment franco-japonais de l'IA. C'était le projet de cinquième génération, c'est dans les années 80, c'est là où moi j'ai fait ma thèse, c'est comme ça que j'ai eu une bourse CIF. CIF, c'est l'industriel qui paye la thèse. Et en fait, les Japonais ont dit, l'intelligence artificielle, il se passe quelque chose, on va faire la cinquième génération d'ordinateurs, ils vont être dédiés à l'intelligence artificielle. Dès la conception, ils vont être faits pour être intelligents. Et qu'est-ce qu'ils ont pris comme modèle ? La logique. Donc la logique, c'est Aristote, les Grecs, les maths, tout le monde comprend. Hein. C'est une règle logique, par exemple, c'est si j'ai plus de 18 ans, je suis majeur. C'est une règle logique qui va déduire qu'on est majeur si on voit qu'on a 19 ans.
Une condition, une conséquence.
Voilà, c'est l'exemple le plus simple. Donc l'idée, c'est que la base du fonctionnement de la machine, ce n'est pas du calcul, c'est de la logique. Et en réalité, si on va plus profond, parce qu'on parle toujours de dire, c'est du calcul, donc c'est pas intelligent. C'est pas du tout un bon débat. La base des machines électroniques, tu connais probablement ça, c'est la logique, c'est les portes logiques. L'électronique, c'est les portes non.
Oui, c'est la logique booléenne.
C'est la logique booléenne. On passe de 0 ou 5 volts à 0 ou 1, et donc vrai et faux. Donc la base, en fait, c'est pas le calcul, c'est la logique de ces machines-là. Il y a eu des processeurs qui ont été dédiés, conçus pour calculer extrêmement vite, mais c'est des spécialistes. Nous, notre cerveau, il est généraliste, puis à l'intérieur du cerveau, on a des zones dédiées. Le langage, c'est l'aire de Broca. Donc c'est un petit bout du cerveau qui comprend ce que c'est que le langage, qui nous aide à comprendre et à produire. On revient sur ce modèle. Ça marchait pas. Ce qui s'est passé, c'est que notre cerveau, il fonctionne en parallèle. Il y a une centaine de milliards, tu me corriges, de neurones dans le cerveau humain.
Oui, facilement. Ouais.
Ouais. Chacun de ces neurones, c'est un être vivant à part entière.
Ce qui est le plus important, en fait, c'est les connexions entre les neurones, c'est les synapses.
Ouais. Alors ils se connectent, ce qui augmente la combinatoire. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que chacun de ces neurones, c'est un être vivant à part entière. Ce qui nous ramènera à l'intelligence en essaim, c'est-à-dire à comment des trucs un peu concons en coopérant, comme nos neurones. Nos neurones, ils sont un peu concons, par contre, ils sont hyper bons pour coopérer. Ça peut produire des comportements extrêmement intelligents. Donc, par exemple, des fourmis, des abeilles, tout ça, c'était très étudié. Mais le cerveau, c'est ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Comme chacun est un être vivant, ben il fait son truc dans son coin sans attendre que les autres aient fini. Donc on a un niveau de parallélisme, c'est-à-dire pour produire de l'information de façon simultanée, qui est c'est 100 milliards, on va dire. Ou comme c'est des groupes de cerveaux, l'unité, c'est le million, la centaine de millions, le milliard. Et donc, les calculateurs qu'on faisait, ils faisaient le calcul un machin par un machin.
Tu parles des machines, là, maintenant.
Les machines, ouais. Un truc à la fois. Donc, ça pouvait pas le faire. Et là, l'idée, entre guillemets, de génie, ou l'intuition, ou le tilt, là, le moment dans la nuit où tu te réveilles, tu te dis, mais ouais, c'est tellement con, c'est ça qu'il faut faire. L'idée est très simple, ça a été d'utiliser ce qu'on appelle les cartes graphiques qui affichent les pixels sur l'écran. Chaque pixel, il est adressé individuellement. Et donc, le calcul pour voir s'il est sa couleur, son intensité lumineuse, il est fait de façon autonome, séparée, indépendante du pixel d'à côté. Ils se sont dit, en fait, nos calculs, ils sont très cons dans les réseaux neuronaux, parce que c'est des multiplications, des additions pour mesurer le... Alors peut-être il faut dire ça. Tu parlais des connexions, effectivement, entre les neurones. Ce qui se passe, c'est que quand on apprend, on va établir des connexions. En fait, des paquets de connexions. Et le connexion, c'est un seuil, grosso modo, numérique, qui dit, si l'excitation, elle est au-dessus du seuil, elle passe. Si elle est en dessous, ça passe pas. Et les réseaux neuronaux informatiques, c'est exactement ça. Ça calcule des connexions et ça met ce qu'on appelle des poids sur les connexions. Donc, si l'excitation, elle est en dessous, il se passe rien. Si elle est au-dessus, il se passe quelque chose. Et c'est à la fin, avec ça, qu'on finit par trouver des chats. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Le modèle informatique, c'est une simplification, mais de cingler du vrai modèle, parce qu'il y a de la chimie, il y a de l'électricité, il y a de la rétroaction quand on est surexcité. Enfin, c'est le modèle neuronal qui commence à être assez bien connu. Il est infiniment plus complexe que celui des neurones informatiques, pour le dire comme ça. L'hypothèse que font certains, c'est que cette simplification, en fait, elle pose pas trop de problèmes. C'est qu'il y a plein de trucs qui se passent, mais on peut, comme en physique, hein, les maths de la physique, il y a toujours un epsilon qui se rimballe, et le physicien, il dit, bah, là, l'epsilon, il vaut zéro, donc en fait, il n'y en a pas, et on s'en fout. Donc, on fait un modèle, et le modèle peut suffire, bien qu'il soit à une approximation, peut suffire. Là, l'hypothèse, c'est ça.
Et c'est ça qui a permis donc ce saut à partir de 2012,
voilà,
et qui a entraîné donc l'immense développement.
Exactement. Donc ils ont porté leurs modèles neuronaux sur ces cartes graphiques, et là, bingo. Quasiment du jour au lendemain, chaque année, il y avait une compétition. C'est comme ça que les militaires financent les trucs. Ils créent des compétitions. Une compétition de reconnaissance de scène, on appelle ça. Donc, tu as une scène et puis tu as quelqu'un sur un cheval. Il y a un chien qui aboie, une voiture derrière, etc. Tu files l'image à la machine et elle te dit ça avec des probabilités à chaque fois. Ils ont c'est un stagiaire qui est allé faire la présentation. Il a explosé tout le monde. Et là, les gars ont fait, mais bon Dieu. Et donc, c'était un labo, un mec très connu. Il a plus de 70 ans maintenant, très respecté. D'ailleurs, il vient de quitter Google en disant, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et il a pété un câble, vraiment pété un câble. Et donc, là, ça s'est mis à marcher. Les GAFAM ont vu ce qui se passait, ont vu comment ils pouvaient tirer parti de ce truc-là. Et là, ils ont lancé la compétition et envoyé les milliards, dizaines de milliards et maintenant centaines de milliards de dollars. Et tout le monde a été arrosé et le machin s'est mis à accélérer. Kick that habit, man.
Man kick. vient d'écouter Kick, interprété par Don Cherry et Brian Gesine.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans limite ni publicité de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.org dans le reste du monde, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Patrick Albert, nous parlons d'intelligence artificielle. On a passé en revue les différents types d'intelligence artificielle qu'on a connus jusqu'à très récemment. Et là, on va aborder la toute dernière étape, c'est-à-dire les intelligences artificielles génératives, c'est ce que le grand public connaît aujourd'hui avec ChatGPT. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de l'intelligence artificielle probabiliste, du grand saut qui s'est passé aux alentours de 2012 avec un changement, je dirais presque, de paradigme sur la compréhension du fonctionnement des machines avec les circuits neuronaux. Et comment est-ce que tu peux maintenant nous expliquer, sans aller trop loin dans le détail, mais au moins pour essayer de comprendre comment marche l'intelligence artificielle générative?
Alors peut-être tout d'abord le passage de ces grands systèmes d'apprentissage là qui commençaient à bien fonctionner, en particulier sur la reconnaissance faciale. Il y a eu tout un mouvement sur Facebook de reconnaissance, et en fait ils demandaient aux utilisateurs de Facebook de faire eux-mêmes le truc en disant ces machines, ces machins sur les photos. Il y a eu une invention qui a été faite en 2018 chez Google. Alors Google, à cette époque, il disposait pas de tous les meilleurs, mais d'une partie significative des meilleurs ingénieurs et chercheurs en intelligence artificielle. Ils ont des moyens tels qu'ils ont attiré tout le monde, enfin toute une grosse partie de la population. Et il y a eu un groupe de personnes qui a inventé ce qui s'appelle les transformers. Donc dans GPT, c'est je le dis en anglais, c'est plus simple, c'est General Pre-trained Transformer. Et donc transformer, c'est une idée, on va dire, algorithmique, de méthode ce coup-ci, qui a dit il faut pas faire ceci, mais il faut faire cela. Et c'est là où il y a eu ce moment qui a transformé ces systèmes d'apprentissage qui étaient quand même un peu bourrins, extrêmement fastidieux, qui n'arrivaient pas vraiment à décoller de la reconnaissance d'image en quelque chose de beaucoup plus général. Et en fait, ce sont les IA génératives. Donc pourquoi génératives? C'est parce que ça produit des trucs. Il y a l'analyse et la synthèse. Donc l'analyse, c'est de comprendre le monde et donc de mettre des étiquettes, chaud, froid, blanc, noir, etc. La synthèse, c'est de produire quelque chose. En l'occurrence, de l'information. Et donc l'IA, ça faisait plutôt de l'analyse. L'analyse, c'est plus simple en vérité. Mm-hmm. Et donc là, c'est l'arrivée d'IA qui produisent quoi ? Des trucs généraux, du langage, donc du texte sous différents formats, qui produisent des images, du dessin, des images tout à fait photoréalistes, et qui produisent de la vidéo maintenant. Hein. OpenAI, les inventeurs de ChatGPT, ils ont sorti un système qui produit de la vidéo, c'est tout à fait impressionnant, quoi. Il y a encore des erreurs, des machins, des trucs, mais c'est tout à fait impressionnant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des IA qui sont généralistes. Alors, expliquer le fonctionnement de ça, c'est un peu compliqué. En fait, sur le langage, pour le dire à très très haut niveau, ce sur quoi ça se base, c'est une distance entre les mots. Par exemple, chat, ça va être proche de mangeoire, de collier, de croquette. Ça va être très loin de, je sais pas, voiture, éléphant, empereur, etc. Donc, on fait bouffer du texte. C'est des milliards et des milliards de pages. Pour que la machine apprenne les proximités entre les mots, créer d'une certaine façon, sans pouvoir les nommer, des abstractions. Par exemple, nous, on a l'abstraction du genre, masculin, féminin. Les systèmes d'IA générative ont ces abstractions-là. Nous, on les nomme parce qu'on discute entre nous, et pour discuter entre nous, utiliser des chiffres, ça nous plaît pas, ça marche pas. Hein. Donc, elles ont des numéros pour désigner ça. Et donc, à force de faire ces apprentissages-là, et comment on fait? On prend des textes, On fait des trous dans les textes. Donc, par exemple, le chat s'approche de sa... le vrai texte, c'est mangeoire. On enlève mangeoire. Et donc, on fait prédire à la machine le mot manquant. Parmi les mots qu'elle va produire, il y aura mangeoire. Donc, mangeoire, on lui fait bravo. Et c'est une machine qui lui fait bravo. C'est supervisé, mais c'est la machine qui se supervise elle-même. Elle apprend sans nous, là. Hein, parce que nous, on a eu l'idée de faire des trous dans les textes et d'utiliser ces trous pour lui faire faire des tas d'essais. Et quand l'essai est bon, y a une récompense. Il y a un neurone qui va, boum, son poids de connexion, le poids de connexion entre chat et mangeoire, peut-être indirect, le chemin va être renforcé.
D'accord.
Comme c'est le cas dans le cerveau. Et par exemple, si c'est cage, ça va fonctionner aussi. Donc là, c'est la méthode.
Oui. Alors, ça a suscité beaucoup de débats, de discussions sur ce nouvel aspect donc de l'intelligence artificielle. Le grand public s'en est emparé. Il y a même eu une grève des scénaristes à Hollywood qui craignaient pour le futur de leur métier, de leur emploi, en disant qu'ils allaient être remplacés par les machines. On a vu par exemple des traducteurs. On utilise tous maintenant, enfin tous ceux qui ont accès à Internet et qui ont besoin de traduire du texte, on utilise tous des traducteurs en ligne, DeepL pour pas le nommer, un des plus performants. Ouais. Et donc il y a des conséquences de plus en plus marquées. Il y a pas longtemps, je lisais. Alors on revient peut-être un tout petit peu en arrière, mais c'est à propos des fraudeurs à la CAF avec des algorithmes prédictifs qui peuvent prédire si tel ou tel allocataire a des chances ou des risques de frauder la CAF. Quand tu as parlé, tu as cité la reconnaissance d'image là avec les Jeux Olympiques qui approchent. On est en train de nous installer, si ce n'est déjà fait, des caméras dites intelligentes de reconnaissance faciale pour la surveillance des mouvements de foule. Voilà, il y a des conséquences de plus en plus marquées. La Chine est le pays le plus en avance sur ses applications policières, politiques, de contrôle des populations grâce à l'intelligence artificielle. Et on voit qu'on a passé un cap, une étape, même si c'était déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Mais là, on s'en rend compte, effectivement, avec toutes les conséquences sociales et politiques, économiques que cela implique. Tout à l'heure, tu nous as parlé, tu as évoqué donc tout ce mouvement qui a commencé avec la révolution industrielle au début du XIXe siècle, ce mouvement d'industrialisation et de machinisation du monde avec cette transformation du travail, mais aussi d'une transformation sociale, une transformation, je dirais même anthropologique, hein, puisqu'on a vraiment complètement modifié les rapports entre humains et les rapports des humains avec la nature. Et ce que tu as dit me semblait tout à fait juste. L'IA s'inscrit dans ce mouvement, c'est une nouvelle étape. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus et ta réflexion justement sur cette relation entre l'industrie, la machine, l'IA?
Ouais, merci. C'est ça qui me tient peut-être le plus à cœur. Il y a un livre qui a nommé ça. Alors, on revient sur le nommage. Ce qu'on ne sait pas nommer, on ne peut pas le comprendre et encore moins le critiquer. Le titre du livre, c'est « Le deuxième âge de la machine ». C'est un livre qui a été écrit aux États-Unis par deux chercheurs.
Et il est disponible en français ou pas?
Il a été traduit, ouais. Mmh. Alors, eux, ils sont plutôt emballés par le deuxième âge de la machine. Moi, je pense que c'est plutôt une horreur. Mais c'est vraiment le nom qu'ils ont trouvé, je pense, capture ce qui se passe. Le premier âge de la machine, ça commence avec la machine à vapeur et puis tout ce qui s'en est suivi. Ça transforme de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et cette énergie thermique, on peut la transporter par des machines spécialisées dans le transport de l'énergie. Et donc, ça fait des machines généralisées partout. Ça nous amène donc à la société des années 60. En particulier, d'un point de vue anthropologique, c'est la disparition du travail animal, quasiment. Il n'y a plus de chevaux dans les champs. Hein? Donc eux, c'était des travailleurs, hein, les chevaux. Donc on se fait des nœuds au cerveau pour savoir qu'est-ce qui va rester en termes de travailleurs. Il n'y a plus de chevaux et des paysans avec la mécanisation. Il y a un terme qui est utilisé, c'est un ethnocide qui a été produit après les années 50, avec ces machines. C'est-à-dire toute une civilisation, une culture, des villages, des machins, tout ça a disparu, il n'y en a plus. Donc premier âge de la machine, et production de masse, société de consommation, les voitures, les villes toujours plus grosses. Et maintenant, on en est au deuxième âge, c'est-à-dire que la machine, maintenant, continue de disposer de la puissance mécanique, et s'ajoute la puissance intellectuelle, pour le dire comme ça. Et dans le cadre des robots physiques, des systèmes cyberphysiques, la puissance intellectuelle se combine à la puissance mécanique. Et donc, en fait, d'un point de vue anthropologique, moi, je vois percer une nouvelle forme, non pas d'être vivant, parce qu'en fait, on sait pas définir ce qui est vivant. Enfin, les spécialistes ne savent pas. On va dire ce qui est vivant, c'est ce qui est biologique. Donc, une nouvelle famille d'êtres animés, qui sont pas biologiques, qui sont des êtres vivants. Quoique, il y a des fusions entre... Enfin, tu connais les organoïdes, hein, mais on n'a pas le temps de développer ça. Nouvelle famille d'êtres qui sont des bots qu'on voit pas, des robots qu'on voit, et qui commencent à nous côtoyer, à faire ce qu'on fait, à le faire de mieux en mieux. Et l'objectif, à chaque fois, c'est de le faire mieux que les humains. C'est l'objectif avoué. Et il faut qu'on cohabite avec ces machins-là. Donc, il y a le monde du travail. Moi, je vois pas bien, à l'échéance de quelques décennies, donc des jeunes qui sortent de leur mère ou qui sont encore sur les bancs des écoles, je vois pas bien quel boulot ils vont faire qui sera pas fait, éventuellement mieux fait, par une machine. Je vois pas bien. Le propre de l'humain, ce sera probablement de prendre des initiatives et de faire le reste. Donc, d'un point de vue social, il y aura un impact au moins comparable avec l'impact du premier âge de la machine, hein. Destruction des artisans, émergence de la classe des ingénieurs, prolétarisation épouvantable. Sauf que là, ça s'applique aux travailleurs intellectuels. Tu citais les traducteurs et ça se passe en trois temps. Premier temps, le traducteur, il est aidé par la machine. Donc là, c'est super, tu cherches des synonymes, des machins, tout est en ligne, c'est génial. Deuxième temps, en plus avec l'apprentissage, à chaque fois que tu utilises la machine, elle apprend ce que tu fais. C'est toi qui t'es pas aidé, mais tu corriges les erreurs de la machine. En la corrigeant, tu lui fournis gratuitement de l'apprentissage supervisé, donc elle s'améliore. Troisième temps, la machine, elle a pas besoin de toi, ou de façon extrêmement marginale. Et ce qui est nouveau, c'est que les travailleurs intellectuels, ils ont été protégés de ce machin-là. Maintenant, ils sont en première ligne. Et donc, ça s'applique. Les traducteurs, c'est l'exemple parfait. Les musiciens, les gens qui font des scénarios, les doubleurs, parce qu'on peut imiter, alors c'est pas parfait, mais tendanciellement, ça va l'être. On peut imiter les voix, etc. La médecine, elle est quand même chamboulée aussi. Les radiologues, je vois pas bien ce qu'ils vont faire dans 20 ans.
Les dermatologues aussi, puisque maintenant on a des moyens techniques, hein, d'intelligence artificielle qui reconnaissent les mélanomes, donc les cancers de la peau, à un stade très précoce où c'est un peu compliqué. Il faut vraiment être expert, hein, pour faire ça. Il faut des années et des années d'apprentissage, ouais, pour un dermatologue, ouais, pour être capable de poser un diagnostic à, on va dire, 96 ou 98% de certitude. L'intelligence artificielle, maintenant, le fait mieux.
Alors là, tu viens de donner la raison, c'est que lorsque nous, on met des années à apprendre, ces années, elles sont comprimées en peut-être une heure dans une de ces machines. Donc, ce qui se passe, c'est l'industrialisation de tout, c'est-à-dire des objets physiques et, on va dire, des objets intellectuels et leur marchandisation. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on va vivre? Je pense que personne ne sait réellement. Le but avoué maintenant, après ChatGPT, de tous ces grosses entreprises là, saturées de dizaines de milliards, c'est de faire ce qui s'appelle l'intelligence générale, c'est Artificial General Intelligence. Oui, l'intelligence artificielle générale. C'est-à-dire une IA généraliste qui sait faire grosso modo tout ce qu'on sait faire ou qui sait apprendre ce qu'elle ne sait pas encore faire. Et qui, à chaque fois, est au moins au niveau des humains. Et ça, c'est un truc qui est ciblé dans la décennie ou un peu plus loin. Donc, et personne ne comprend l'impact que ça peut avoir sur le monde du travail et sur nos vies, sachant que dans nos vies, ce sont des machines qui prennent de plus en plus de décisions. Sur l'Internet, au début, on faisait du surf. Et donc on avait une liste de recommandations, de pages, de machins, parce que c'est trop grand pour nous, on n'y arrive pas. Donc c'était des robots, ce sont des robots qui nous proposent les pages web, éventuellement répondant à notre requête. L'étape d'après, c'est qu'ils nous proposent pas, ils nous, moi j'appelle ça impose, ils nous imposent une réponse. C'est qu'on passe de la recommandation à la prescription. Exemple sur Netflix où les trucs s'enchaînent automatiquement. Donc quand ça s'enchaîne, c'est plus toi qui choisis, c'est la machine. Sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et donc on rentre dans ce monde où ce sont pas des algorithmes. Les algorithmes, c'est trop abstrait. Ce sont des machines qui décident d'un nombre croissant et toujours plus croissant de décisions importantes pour notre existence. Donc c'est contre ça qu'il faut se battre.
Il y a des limites à tout ça, ne serait-ce que des limites physiques, parce que tu parlais de machines, mais ces machines, elles nécessitent des matériaux pour les fabriquer, des capitaux pour financer leur construction. Il y a des limites physiques pour l'instant.
Tu as tout à fait raison. Alors, il n'y a pas de limite en termes de capitaux. Ouais. Les gains et les enjeux sont tels à chaque avancée que ce sont vraiment des centaines de milliards. Là, il y a un projet OpenAI, donc ChatGPT et Microsoft. Ils veulent faire une machine dont le coût est 100 milliards. Donc, personne n'a jamais fait un truc pareil. Et c'est juste l'idée, c'est d'être le roi du monde. Hein. Elon Musk, Jeff Bezos chez Amazon, c'est pareil. Ces gens sont les hommes les plus riches de la planète. Ils ont des moyens colossaux. Ils mènent une large partie de la classe politique par le bout du nez, en leur disant quand tu auras fini la politique, tu viendras chez moi gagner des centaines de millions de dollars. Et donc, ils font ce qu'ils veulent, ils ont les moyens. Ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, le terme utilisé dans le milieu, c'est les accélérationnistes. Ils disent, c'est la merde, il faut accélérer la technique, la technologie. Donc, il faut aller plus vite, donc il faut consommer plus de ressources, plus d'énergie, plus de ci, plus de ça. Et tout ça peut très bien nous envoyer dans le mur. Donc, en fait, l'hypothèse, qui est pas aberrante à travailler, c'est de dire cette course contre la montre, c'est-à-dire contre les crises qui émergent de partout, elle est peut-être complètement cinglée et elle va nous envoyer dans le mur. Il faut se préparer à ce mur. Et l'origine de la permaculture, c'est ça.
On arrive au terme de notre entretien. Là, il nous reste quelques minutes. On peut pas traiter de ça en 2-3 minutes, bien sûr, mais comment réagir face à ça? Il y a tellement de choses énormes qui sont en train de se passer. Tu l'as dit, on est en face d'une transformation accélérée, globale de nos sociétés, avec des transformations dans les relations au travail, dans la relation sociale, dans la relation politique. En même temps, il y a des enjeux vitaux qui sont là. Enfin, la crise écologique, climatique, les différentes crises sociales, politiques. On n'en a absolument pas parlé, mais l'IA est utilisée par l'armée israélienne pour cibler à Gaza. Voilà, c'est juste une des conséquences catastrophiques de cette
crise. Là, c'est l'industrialisation du crime de masse, hein, voilà. C'est aussi con que ça.
Je crois qu'il faut continuer à se tenir informé, au courant. Je crois que tu nous as parlé d'un texte que tu es en train de rédiger. Ça sort quand?
Alors, je vais probablement faire un livre pour les éditions du Monde Libertaire. D'accord. Donc, je ne sais pas, c'est dans l'année calendaire là, qui vient. Et pour ceux qui nous écoutent, moi, je raconte ça là où on m'invite, grosso modo, pour le faire. Je pense que je fais partie de ceux qui, connaissant parfaitement le truc, peuvent le décrire et répondre aux questions que chacun se pose. Maintenant, ce qu'on peut y faire, il y a comme toujours deux Il y a trois choses.
En deux minutes.
Il y a comprendre, communiquer, c'est-à-dire faire de l'éducation populaire, mm-hmm. c'est ce que je fais. Il y a bloquer le système. Donc là, il y avait une grosse manifestation du côté de Grenoble ce week-end. Ils étaient plusieurs milliers à scander le slogan anti-industriel. Donc il y a un mouvement technocritique, anti-tech, anti-industriel qui est réellement en train de s'assembler depuis quelques années, qu'il faut soutenir et auquel il faut contribuer. Il y a des tas de modalités. Et ça, c'est une prise de conscience de le seul ennemi, c'est pas le capital, c'est la machine. Et ce à quoi on assiste et ce qui nous pèse, c'est l'alliance entre la machine, pour dire comme ça, et le capital. Il y a ces deux, le système tient sur ces deux jambes. Donc il faut critiquer ça. Et troisième volet, c'est préparer le monde de secours. Et donc j'évoquais la permaculture, tenir la machine à distance. Moi, je suis raisonnablement anglophone. Je me retiens d'utiliser un traducteur. Je le fais quand je suis paresseux, quand je suis fatigué, mais je traduis, moi, je veux pas qu'une machine me traduise. Donc, il y a dans tous les pans de son activité, j'ai un potager, il y a quasiment pas de machine là-dedans, tout est fait à la main. Donc, il y a tenir les machines à distance dans sa propre vie et inciter, si on est parents, grands-parents, inciter les générations qui suivent à faire de même, parce qu'ils sont nés là-dedans. Les petits-enfants, ça adore les robots. Donc, il y a vraiment toute une éducation pour leur faire, en disant la machine, c'est pas mal, parce que les Grecs ont très très bien démontré ça. On est homo faber, c'est-à-dire que on est l'être technologique. On est une bête qui sait pas faire grand-chose à part faire des outils et les utiliser. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que les outils sont dangereux et le mythe de Prométhée, alors, revu par Platon, je conclue là-dessus, ça dit que la possibilité de la technologie crée la nécessité de la démocratie. Et pour moi, la démocratie, c'est l'organisation de type anarchiste.
Merci Patrick. Nous allons laisser l'antenne à nos amis du monde merveilleux du travail. Nous nous retrouvons, quant à nous, le 20 mai prochain. Nous discuterons avec Sarah Grouchka du siège de Leningrad. À bientôt.
Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. Parfois je pense à ce que j'aurais pu être. Tiens, la goût du Malibran ou la divine peut-être. Être à des années 30, 31. Monsieur de truc ou de machin, tu prenais ta vertu et t'avais pignon sur la rue. je me serais payé dans mon fiacre un drôle de tour du monde. Monde, et les montagnes au lac, je l'aurais dansé ma ronde. Ronde, en bas à beauté, dans mon fiacre, et toi chapeauté, chapeau claque, on s'en serait allé à les fouettes cochées. Et viens, viens donc voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne sur le canal Saint-Martin. Non mais t'imagines, au lieu de ça je trime. Je voudrais voir l'automne dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Je voudrais voir l'automne, l'automne avec toi. On peut rêver, rêvasser à ce qu'on aurait voulu être, être. Mais c'est foutu, c'est classé, ce n'est pas plus mal peut-être. Être là à la fin du jour, gueule d'amour, c'est bientôt la nuit, gueule de nuit. En robe de lumière, je serai à mon affaire. Viens, après tout l'automne, dans le petit matin, quand le ciel s'étonne, on verra ça demain. Viens, la ville s'allume et Paris s'enflume. Après tout l'automne, dans le petit matin, qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on s'aime et c'est bien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui m'étonne. Tu la la la. Je suis ta souris gueule de nuit et je vais, je viens, je pense, pense. Il y en a que c'est de Saint-Denis, moi que c'est de Montparnasse, Nasse.
Rien n'est comme il devrait être. Le maître, plus que le valet, elle l'est. Souvent d'une pauvre fille qui brille, les pieds en sabots sont beaux. Dans l'église et la guinguette qu'il guette, le diable survient, il tient. Par sa guimpe et son air rude, Gertrude, et par son chignon, Ninon. Le destin, ce dieu sans tête et bête, a fait l'animal formal. Il fit d'une fange immonde le monde, et d'un fiel amer, la mer. Tout se tient par une chaîne de haine. On voit dans les fleurs des pleurs. Homme, mon frère, nous sommes deux hommes et plein de venin de nain. Car ce globe où la mer tremble nous semble